Mais qu'est-ce qu'elle raconte sur Radio Saferréole 94.2, le quatrième mardi du mois à 11h, retransmis le dimanche suivant à 13h, avec Sophie au micro, Pierre à la technique. Chères auditrices, chers auditeurs de Mais qu'est-ce qu'elle raconte, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette quatrième année ou saison, je ne sais pas comment il faut dire, de Mais qu'est-ce qu'elle raconte. Alors des contes, bien sûr, au programme, des contes du monde entier, parce que les contes sont inépuisables et une source de sagesse et de vie pour tous les âges. Et puis aussi peut-être cette année quelques récits de vie de personnes qui m'ont particulièrement émue par leur qualité de courage ou d'héroïsme. Mais ce sera pour plus tard. Eh bien aujourd'hui on va parler de lui. Il est, dit-on, le meilleur ami de l'homme ou sa plus belle conquête. Il peut être sauvage, indomptable. Dans les contes, il galope, il vole aussi, il enseigne et parfois il est plus sage que son maître ou sa maîtresse. Le cheval. Le cheval noir est souvent lié au diable et il emporte ses cavaliers en enfer, alors que le cheval blanc, lui, va plutôt voguer dans un grand ciel bleu vers le paradis. Et il y a, sans vouloir être exhaustive, je me suis amusée à chercher quelques souvenirs de chevaux célèbres. Il y a Rocinante, le cheval de Don Quichotte. Dans la BD Jolly Jumper, le cheval le plus rapide de l'Ouest. Petit Tonnerre, le poney de l'Indien Yakari. À l'écran, Crin Blanc, le cheval sauvage qui ne peut être dompté que par quelqu'un d'aussi sauvage que lui. Tornado, le cheval de Zorro. Le Pilgrim de l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, le cheval blessé. Puis les chevaux mythiques, le célèbre Pégase avec ses ailes. Et le cheval de Troie qui a permis aux Grecs de s'emparer enfin de la ville de Troie dont ils faisaient le siège depuis plus de 10 ans. Et qui a donné le nom au fameux virus, enfin les chevaux de Troie plus exactement, qui s'introduisent dans les systèmes pour les détruire. Il y a aussi le cheval blanc d'Henri IV qui, dit-on, n'était pas blanc du tout. Il s'appelait Albe, ce qui veut dire blanc, mais il aurait été noir ou beige ou peut-être gris. On ne sait pas exactement. Puis Bucéphale, le cheval d'Alexandre le Grand. L'histoire raconte qu'Alexandre, qui deviendra plus tard Alexandre le Grand, qui vivait en Grèce antique il y a bien longtemps, vers 350 avant Jésus-Christ, alors qu'il n'était âgé que de 10 ans, était déjà célèbre pour sa capacité à dompter les chevaux les plus rétifs. Son père, l'empereur Philippe de Macédoine, un jour a fait le pari avec son fils qu'il n'arriverait pas à dompter un cheval particulièrement fougueux que personne n'avait réussi à monter. Alexandre, âgé de 10 ans, avait déjà pris part à des batailles, était un excellent cavalier, et il a commencé par étudier le comportement de ce cheval, cheval noir. Il s'est rendu compte que l'animal était effrayé par son ombre, et aussi par l'ombre des hommes qui s'approchaient de lui. Il s'est approché du cheval avec tendresse, il lui a parlé, il a réussi à le placer face au soleil. Et le père d'Alexandre, Philippe, a eu la grande surprise de voir son fils qui galopait tranquillement sur ce cheval sauvage. Et ce jour-là, il lui aurait dit « Ah, mon fils, il faudra te chercher ton propre royaume parce que la Macédoine sera trop petite pour tes épaules. » Et c'est bien ce qu'Alexandre a fait. Et pendant plus de 20 ans, Alexandre, monté sur son cheval Bucéphale, a entraîné ses troupes jusqu'aux confins du monde de l'époque, jusqu'en Inde où il a conquis un immense empire. Et c'est à la guerre que l'histoire se termine, puisque le fidèle Bucéphale, lors d'une bataille contre un roi indien du Pendjab, Bucéphale, mortellement blessé, va quand même résister et conduire son maître à la victoire avant de s'effondrer. Ce jour-là, une fois la bataille gagnée, Eh bien, Alexandre aurait, dit-on, pleuré pour la première fois sur le corps de son cheval, et il va faire ériger une ville en son honneur, une ville qu'il appellera Bucéphalie, qui se trouve dans l'actuel Pakistan. Quand on représente les Amérindiens, on les représente souvent à cheval. Pourtant, le cheval n'a été introduit en terre amérindienne qu'au XVIIe siècle par les Espagnols. Et très vite, les Indiens l'ont adopté. Au début, ils l'appelaient le chien mystérieux, puisqu'ils n'en avaient jamais vu. Les animaux qu'ils utilisaient comme animaux de bât étaient les chiens. Et peu à peu, ils ont eu de plus en plus de chevaux. Ils les capturaient dans les enclos des colons blancs ou les chevaux sauvages qui vivaient dans les prairies. Et ils sont devenus d'excellents cavaliers et les chevaux faisaient partie de leur vie. Et voici un conte qui explique comment les Indiens ont eu des chevaux. Cette histoire se passe dans un village Pawnee au bord d'une grande rivière. Là vivait un jeune orphelin. Sa hutte de terre, son wigwam, était le plus pauvre du village. Et dans ce village, c'étaient les chasseurs qui procuraient la nourriture à leur famille, aussi les vieillards ou les orphelins qui n'avaient pas quelqu'un pour chasser pour eux, étaient souvent très misérables et ils mouraient de faim. Ils devaient quémander leur nourriture auprès des autres. Et cet orphelin, eh bien, souvent avait le ventre creux et bien peu de gens lui donnaient à manger parce qu'en plus, il était particulièrement chétif. Et les chasseurs le regardaient en lui disant « Mais toi, ça sert à quoi de te nourrir? De toute façon, tu ne seras jamais un grand chasseur. » Il n'y avait que le chef de la tribu qui avait pitié de l'orphelin et qui disait à ses hommes « Mais si le grand esprit a mis cet enfant et lui impose des épreuves aussi dures, c'est que sans doute il a un grand destin pour lui. Peut-être il deviendra un chef de tribu, il deviendra plus tard un grand chasseur. » Mais les autres se contentaient de rire. Un jour, le chef, en voyant l'orphelin si misérablement vêtu, lui a même fait don de vêtements et d'une paire de mocassins. La période que l'orphelin redoutait le plus, c'était quand les bisons arrivaient. Les guetteurs donnaient le signal, les bisons. Alors pratiquement tout le village se mettait en marche pour partir à la rencontre du grand troupeau. Et les femmes avaient leurs couteaux pour tanner les peaux, et puis on mettait la viande à sécher et on faisait des provisions qui devaient durer toute l'année. À cette époque-là, dans ce village-là, les Indiens ne connaissaient pas les chevaux. Ils n'avaient que les chiens comme animaux. Donc cette année-là, le signal a été donné, les bisons arrivent, toute la tribu s'est mise en route et l'orphelin s'est retrouvé tout seul dans le village. Vraiment seul. Alors il s'est mis à pleurer, c'était l'angoisse de se retrouver là. Une année, il avait même failli mourir de faim avant que sa tribu ne revienne. Il a pleuré et ses larmes coulaient sur la terre sèche à ses pieds. Il a tant pleuré que la terre est devenue de la boue. Puis soudain, il a entendu une voix dans sa tête. Une voix qui lui disait « Eh bien, assez pleuré maintenant. Tu vas jouer, tu vas faire quelque chose de cette terre-là. » Il a regardé à ses pieds et il a vu la boue. Il l'a mélangée à de la terre plus sèche, il l'a pétrie. Et mon vieux, cette terre-là était bien pour sculpter. Alors il s'est dit, je vais me faire un ami, je vais sculpter un chien. Comme ça, je ne serai plus tout seul. Aussitôt, il s'est mis au travail, mais c'était comme si ses mains ne lui obéissaient plus. Et il a sculpté un drôle d'animal. Et il avait des pattes beaucoup trop longues pour un chien. Et son cou aussi était beaucoup trop long. Puis sur le dos, il avait de longs cheveux humains, une grande queue. L'orphelin a regardé le petit animal qu'il avait sculpté. Il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je vais en faire un autre, puis je vais m'appliquer davantage pour qu'il soit plus réussi. Alors, il a posé le premier à côté de lui, il s'est remis au travail, mais là encore, ses mains ont sculpté un drôle d'animal qui était pratiquement semblable au premier. Il l'a posé à côté de l'autre et soudain, il s'est senti très fatigué. Il s'est allongé et s'est endormi. Et il lui a semblé faire un rêve. Dans son rêve, il y avait un nuage qui prenait la forme de l'animal qu'il avait sculpté. Et il a entendu la voix du grand esprit qui lui a dit « C'est toi que j'ai désigné pour donner les chevaux aux Indiens. Ces animaux vous rendront de grands services. Vous pourrez monter sur leur dos et ils vous emporteront à la vitesse du vent. Vous pourrez aussi leur faire porter vos charges les plus lourdes. » Puis, tout a disparu. L'orphelin s'est réveillé. Et de nouveau, il a entendu une voix dans sa tête. « Emmène les chevaux broutés au bord de la rivière. Laisse-les boire pendant 3 jours. Elles deviendront grands et tu pourras les emmener à ta tribu. » Aussitôt, il a attrapé délicatement les 2 petites sculptures. Il a couru jusqu'à la rivière. Il a cherché là où l'herbe serait la plus belle, la plus verte. Et il a posé les 2 créatures. Et les chevaux ont secoué la tête, leurs crinières se sont mises en mouvement et puis ils se sont mis à brouter. Et à mesure qu'ils broutaient, ils grandissaient. Ils grandissaient sous l'œil étonné du garçon. Mais ce qu'il y a, c'est que lui aussi grandissait. Ses jambes devenaient plus solides, son dos s'est redressé, sa poitrine s'est élargie. Lorsque la nuit est tombée, il a ramené les chevaux. Il rentrait tout juste maintenant dans son wigwam. Lui aussi était obligé de baisser la tête. Le lendemain, il les a emmenés de nouveau à la rivière et les chevaux ont grandi encore. Ils sont devenus si grands que le soir, ils ne rentraient plus dans sa hutte. Il les a emmenés dans la hutte du chef, qui était la plus haute du village. Mais le 3e jour, quand il a vu les chevaux qui, toute la nuit, avaient dormi à ses côtés, l'avaient réchauffé de leur souffle, oh, ça a été plus fort que lui. Il les trouvait si beaux. Il a enfourché un des chevaux et il s'est mis à galoper. Et l'autre cheval suivait. Il a pris les traces qu'avait laissées sa tribu en allant à la rencontre des bisons. Et il sentait le vent qui sifflait à ses oreilles. Il entendait le bruit du sabot du cheval sur le sol. Oh, c'était le moment le plus merveilleux qu'il n'avait connu dans sa vie. Le grand esprit le regardait depuis là-haut, depuis le ciel, et il se disait, ah, il a laissé les chevaux brouter un jour de moins que ce que je lui avais dit. Alors ils resteront petits. Et c'est pour ça que les chevaux indiens sont de petits chevaux, des poneys, ce qui veut dire petit cheval. Lorsque l'orphelin est arrivé au campement de sa tribu, tout le monde l'a regardé avec étonnement. Mais c'était lui. Mais comme il avait grandi. Et qu'est-ce que c'était que ces étranges animaux? Le chef souriait et il disait aux autres, vous voyez, j'avais bien dit que ce garçon-là aurait un destin extraordinaire. Alors on a fait fête à l'orphelin, tout le monde voulait admirer les chevaux, tout le monde voulait monter sur leur dos et galoper. Et comme ça, l'orphelin était maintenant devenu un garçon fort et vigoureux. Il a pu aller à la chasse et se procurer de la nourriture. Il a pu aussi participer à la guerre et partir avec les autres. Et il est devenu un héros pour sa tribu. Il battait tous les autres à la course. C'était le meilleur chasseur de sa tribu. Mais c'était aussi un jeune homme qui savait apaiser les querelles et nourrir les plus faibles. Le chef l'avait pris en amitié et souvent il allait à côté de lui pour recevoir des conseils et discuter. Aussi, lorsque le vieux chef est parti pour les terrains de chasse éternelle, eh bien, c'est ce jeune homme-là, l'orphelin, qui a été choisi comme nouveau chef. Il a dirigé sa tribu pendant très longtemps, avec sagesse. Et voilà comment cette histoire se termine. Stubble par Peter, Paul and Mary pour notre pause musicale. Maintenant, une histoire chinoise. Aux confins de l'Empire de Chine se trouvait une contrée très sauvage. Elle était hérissée de sommets qui la rendaient pratiquement inaccessible. On racontait plein d'histoires sur cet endroit-là, que les habitants avaient des pouvoirs magiques. Il y avait dans une vallée reculée de cette contrée une ville qui s'appelait Laling. Pour accéder à Laling, il fallait prendre un sentier escarpé qui dominait des ravins profonds. Il n'y avait que les cavaliers ou les piétons qui pouvaient s'y aventurer, car les lourds chariots où les dignitaires se faisaient transporter n'auraient pas pu passer. Il y avait très très peu de gens assez téméraires pour s'aventurer jusque là-bas, et les habitants de Laling avaient pris l'habitude de ne rencontrer pratiquement aucun étranger. La fierté de leur ville, ce n'était pas leur pâturage à flanc de montagne où paissaient leurs troupeaux, ou les champs qu'à force de courage ils avaient réussi à défricher, où ils faisaient pousser des céréales et des légumes. Non, la plus grande fierté de leur cité, c'était le cheval de pierre qui dominait l'entrée de la ville, la porte qui s'ouvrait dans les modestes remparts. Le cheval de pierre qui était là, érigé sur un roc au-dessus de la porte. Ce cheval était immense. On ne savait pas comment il était arrivé là. Est-ce que c'était les dieux qu'il avait envoyés aux habitants de la ligne, ou est-ce que c'était la neige et le vent qui, au fil des années, l'avaient sculpté? En tout cas, il se dressait et il avait, lui, des pouvoirs magiques. Parce que lorsqu'un étranger se présentait aux portes de la ville, le cheval semblait arriver à lire dans son cœur. Et si le cœur de l'étranger avait de sombres desseins, le cheval frappait du sabot. Le cheval de l'étranger, alors, pliait les jarrets et semblait s'incliner devant ce dieu cheval qui le dominait. Il n'y avait plus moyen de le faire bouger. Le seul moyen pour l'étranger de s'en sortir, eh bien, c'était d'accepter de faire demi-tour et de quitter la ville. Si par contre, le cheval de pierre lisait dans le cœur de l'étranger des dessins favorables aux étrangers, aux habitants de la ville, si le cœur était pur, le cheval hennissait joyeusement et les portes de la ville s'ouvraient, l'étranger pouvait entrer et on lui offrait l'hospitalité. La réputation de la ligne avait fait que les collecteurs d'impôts ne se risquaient pas jusqu'à ces contrées sauvages. Aussi, au lieu d'être écrasés par les taxes comme les autres paysans, eux, ils vivaient bien tranquilles dans leur vallée. Mais voilà qu'il y a eu une révolte et le général en chef de l'armée a renversé l'ancien empereur et a pris le pouvoir. Et c'était un homme encore plus cupide que ses prédécesseurs, qui aimait les fêtes, qui avait beaucoup de concubines, qui aimait la guerre aussi, et il lui fallait de l'argent. Il s'est fait apporter les registres des impôts. Et là, il a vu qu'il y avait une cité qui ne payait pas d'impôts depuis très longtemps. Aussitôt, il a ordonné au gouverneur de cette province d'envoyer une troupe collecter les impôts avec tous les arriérés à la ligne. Les fonctionnaires impériaux délégués par le gouverneur n'étaient pas très pressés de se rendre là-bas, mais un ordre est un ordre. Ils ont pris le sentier à flanc de montagne. Ils sont arrivés après un voyage long et fatigant à cheval devant les remparts modestes de la ville. Le cheval de pierre, là-haut, sur son piton, a frappé du sabot et les montures des collecteurs d'impôts ont plié les jarrets et impossible de les faire bouger. Ils ont eu beau les cravacher, leur parler, il n'y a rien eu à faire. Ils ont fini par faire demi-tour et à rendre compte au gouverneur de l'échec de leur mission. Quand l'empereur a appris ça, il est rentré dans une colère terrible. Il a ordonné qu'on coupe la tête au gouverneur et puis il a délégué son meilleur général à la tête de troupes importantes pour aller s'emparer de ce maudit cheval qui défiait son autorité. Lorsque le général, à la tête de sa troupe, est enfin parvenu devant la porte de la ligne, le cheval de pierre avait disparu. Les hommes ont escaladé les rochers comme ils ont pu, c'était difficile. Les pierres roulaient sous leurs pas, ils ont manqué de se rompre le cou plusieurs fois, mais ils ont eu beau chercher partout dans la montagne, pas de traces du cheval. Rentrer au palais, les mains vides leur paraissaient impensables, ils avaient trop peur de la colère de l'empereur. Et c'est à ce moment qu'ils ont vu d'étranges sculptures qui étaient disposées tout autour de la ville. On aurait dit des animaux pétrifiés, des ours, les loups, il y avait même un aigle, les ailes déployées. Alors ils ont pris ces sculptures en se disant qu'ils allaient ramener ça, ce serait mieux que d'arriver les mains vides. Ils se sont présentés au palais avec les sculptures de pierre. L'empereur allait rentrer dans une rage terrible et les faire tous décapiter. Et puis son regard a croisé le regard des statues. Et il s'est adouci. Il a dit, bien, faisons disposer ces statues tout autour du palais. Peut-être elles nous protégeront des pouvoirs maléfiques de cette ville. Aussitôt, on a fait porter les statues tout autour du palais impérial. Tout le monde est allé se coucher. Mais pendant la nuit, d'étranges murmures ont commencé à monter. Il y avait des sifflements de serpents, des hurlements de loups, des grognements d'ours, des cris de rapaces. Les bruits ont monté au palais, personne ne pouvait dormir. L'empereur est sorti sur la terrasse et a demandé ce que c'était. Et les bruits des animaux ont monté. L'empereur a ordonné mais qu'on emmène ces statues loin d'ici et qu'on les détruise. Mais lorsque les gardes se sont approchés des statues, les statues se sont mises à hurler et à crier tellement fort que des étincelles en sont sorties. Elles ont explosé et les étincelles sont tombées sur le palais impérial qui s'est embrasé. Tous ses habitants, l'empereur en tête, ont eu juste le temps de s'enfuir avant que le palais ne devienne une gerbe de flammes. Dans la nuit, l'empereur a regardé brûler son palais. La colère tenaillait son cœur. Il s'est dit, je ne vais pas attendre. Je ne vais pas laisser mon autorité bafouée par ces sauvages. Et aussitôt, le lendemain, il a rassemblé toute son armée et il est parti jusqu'au village maudit. Lorsqu'il est arrivé, le cheval de pierre le dominait en haut de son rocher. Il avait retrouvé sa place. L'empereur a poussé un cri de triomphe, mais tous les chevaux des cavaliers, le cheval de l'empereur ont plié les jarrets et se sont inclinés devant le cheval de pierre. Il n'y avait plus moyen de les faire bouger. L'empereur a sauté de sa monture, il a escaladé le rocher en direction du cheval de pierre. Tous les hommes le regardaient avec inquiétude. Les pierres roulaient sous ses pas, mais il semblait animé d'une telle volonté que rien ne pouvait l'arrêter, même le sol qui s'éboulait, le fracas des rochers. Et enfin, il est arrivé jusqu'au cheval. Il a brandi son épée et a sauté sur le dos du cheval de pierre. Alors celui-ci s'est cabré avec un hennissement qui a résonné dans toute la vallée tout autour. Le cheval a projeté l'empereur en bas de la falaise et celui-ci s'est écrasé sous les yeux terrifiés de sa troupe. Les généraux ont recueilli la dépouille de l'empereur qui gisait là sur le sol, le crâne fracassé. Ils ont donné l'ordre de la retraite. L'armée impériale a fait demi-tour et plus aucun empereur à l'avenir n'a tenté de faire payer des impôts aux habitants de la Ling. S'ils sont encore là-bas dans leur vallée aujourd'hui, je ne peux pas vous le dire. Et pour terminer, une courte histoire. Alors, il y a beaucoup de versions dans beaucoup de pays. Moi, la version que je connais viendrait d'Inde, mais c'est un conte qui est très répandu. C'est l'histoire d'un paysan qui est un homme d'une grande sagesse. Il vit tranquillement du produit de ses terres avec sa femme et son fils. Et voilà que ce fils capture un jour un cheval sauvage. Il lui construit un enclos devant la ferme de son père. Ouais, le père ne dit rien, mais tous les villageois viennent admirer le cheval et lui disent « Qu'est-ce que tu as de la chance que ton fils ait ramené un aussi beau, un si bel animal ?» Le père dit « Chance ou malchance, qui peut savoir ?» Et voilà que le fils se met en tête de dompter le cheval sauvage. Et un jour, les talons l'envoient promener, le jeune homme tombe, il se casse la jambe. Et le voilà estropié. Les voisins viennent voir le paysan et lui disent « Ah là là, mais t'as vraiment pas de chance, voilà ton fils estropié, maintenant il peut plus t'aider à la culture, et maintenant comment feras-tu? Qui va t'aider ?» Chance. Qui sait si c'est de la chance ou de la malchance, a répondu le père. Puis voilà que le royaume voisin déclenche la guerre, tous les jeunes gens en âge de se battre doivent partir au combat. Et le fils éclopé du paysan, lui, reste auprès de son père. Les villageois dont les fils sont partis à la guerre lui disent « Oh ben là, t'en as de la chance, toi, que ton fils soit estropié, est-ce qu'au moins il reste à tes côtés ?» Qui sait ?» répond le père. « Est-ce que c'est de la chance ou de la malchance ?» Et voilà que les talons brisent son enclos et s'enfuit. Les voisins disent « Ah ben oui, t'as vraiment pas de chance, hein, parce que voilà, ton cheval est parti maintenant. Qui sait ?» répond l'homme. Puis, voilà les fils des villageois qui reviennent de la guerre. Ils sont tous bien, bien en vie. On leur a donné des récompenses. Ils sont bien battus. Et les pères sont tout heureux, les mères aussi. D'ailleurs, les parents sont tout heureux de les revoir. Et tous les voisins disent aux paysans, « Là, t'as vraiment pas de chance, toi. Non seulement t'as plus de cheval, ton fils boite, et puis il n'a rien reçu, pas de solde, pas de butin, puisqu'il n'est pas parti à la guerre, il n'a pas pu enrichir ta famille. » Mais le vieil homme, il a hoché la tête, il a dit, « Chance ou malchance, qui peut savoir ?» Et voilà qu'un matin, le cheval sauvage, les talons, revient. Et il revient avec 50 chevaux sauvages et il rentre dans l'enclos s'ils ont choisi, apparemment, de vivre là. Il y a eu juste à fermer la porte de l'enclos derrière eux. Tous les voisins viennent, ils admirent la troupe de chevaux et ils disent au fermier, « Mais bah c'est incroyable, t'es vraiment béni des dieux, toi, que te voilà riche maintenant. Hein? » Chance ou malchance ? Qui peut savoir, a répondu le paysan. Et qui peut savoir ? Mais qu'est-ce qu'elle raconte sur Radio Saint-Ferréol 94.2, l'émission qui compte. Les références de nos contes d'aujourd'hui. Comment les Indiens ont eu des chevaux ? Contes et légendes des Indiens d'Amérique, par Vladimir Ulpak, aux éditions Grund. Le cheval de pierre, c'est un conte chinois, Bernard Chen. Les chevaux, mythes et légendes du monde entier, aux éditions de La Martinière. Je vous recommande aussi le numéro de la revue La Grande Oreille qui s'appelle À Cheval, le numéro 32. Et le dernier conte, Tout est pour le mieux, je n'ai pas la référence exacte. Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? C'est fini pour ce mois-ci et nous nous retrouvons le mois prochain pour de nouvelles histoires.